France Culture.
Comme tous les lundis, nous nous demandons ce qui détermine les comportements des agents économiques. Si bien sûr l'environnement dans lequel ils et elles se situent joue un rôle essentiel, tout dépend aussi de leur rapport à l'argent. Or, celui-ci n'est pas inné, il est transmis, enseigné, bref, tout dépend de la façon dont on est formé aux questions de budget, d'épargne, de consommation. Et tout cela s'apprend parfois très tôt, dès l'enfance, au moyen d'une manne convoitée, celle de l'argent de poche. Alors cet argent de poche, il est parfois donné, il est parfois gagné, mais en tout cas, c'est autant de valeurs inculquées et cette dimension morale est très souvent clairement assumée. Mais cet apprentissage de l'argent n'est pas cantonné à la sphère privée. Depuis la seconde moitié du 19e siècle, la gestion des comptes de la famille et à plus forte raison de l'entreprise familiale est de moins en moins laissée au hasard. L'idée est de développer des compétences utiles aux individus, mais aussi, voire surtout, à l'économie dans son ensemble. Une préoccupation qui rejoint celle de femmes qui ont voulu mettre en place des enseignements spécifiquement dédiés aux femmes. Justement, afin qu'elles deviennent des comptables compétentes, mais aussi des ménagères averties. Là encore, tout est question et gestion de valeur. La formation financière d'individus qui jusqu'ici n'avaient que peu de rapport à l'argent raconte donc en creux une histoire politique de l'économie. Inciter à l'épargne en honnête citoyen, gérer les finances en bonne mère de famille, la sphère privée est éminemment publique et c'est ce que nous allons voir dans cette émission programmée et préparée par Tina Young et qui est réalisée en direct et jusqu'à 15h aujourd'hui par Françoise Le Floch et mise en onde par Élise Leu. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Marion Claire. Vous êtes doctorante en sociologie économique à l'Université Paris-Dauphine PSL au sein du laboratoire IRISO. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Également avec nous à distance, Marianne Thivan, historienne de l'éducation, des femmes et du genre à l'Université Paris-Cité. Bonjour et bienvenue à vous.
Bonjour.
On vous doit un ouvrage intitulé « Ces femmes qui comptent, le genre de l'enseignement commercial en France au XIXe siècle » paru l'année dernière aux presses universitaires de Lyon. Et vous êtes, comme je le disais, avec nous à distance depuis les studios de Radio France à Lyon. Et c'est Chantal Nouvello qui assure la liaison. Merci à elle.
Ma maman m'a dit « Non, mais vas-y, économise. T'inquiète pas, il faut pas que tu arrêtes. » Enfin, voilà. Et maintenant, je suis contente parce que ça lui a beaucoup plu.
Avec cet argent, souvent, je fais des cadeaux. Comme une fois, à l'école, j'avais une trousse. Tout le monde aimait bien. Et du coup, j'ai économisé pour faire un cadeau à tout le monde. Cette trousse, elle était toute douce avec des dessins dessus. Je vais vous la montrer, c'était une trousse comme ça. Et j'en ai offert une pour tout le monde.
16 euros, c'est pas grand-chose. En tant que jeune qui va aller au kebab, souvent au cinéma, un kebab qui coûte 6 euros, une place de cinéma à 5 euros, rien que ça, c'est déjà ça vide l'argent, quoi. Il reste pas grand-chose.
On fait beaucoup de travaux dans la maison, et c'est vrai que Paul a des besoins, on va dire, supérieurs à ses finances mensuelles. Et pour cela, il vient me voir régulièrement en me disant « Papa, t'as pas un peu de travail à me donner, histoire que je gagne un peu plus de sous ?»
Quand c'est moi qui travaille pour avoir l'argent, oui, je me rends plus compte de la valeur de l'argent, alors que quand on me le donne par mois comme ça, on s'en rend moins compte.
Marion Claire, un premier point pour commencer. Vous êtes actuellement en train de rédiger une thèse qui plonge au cœur de la fabrique des dispositions économiques. Or, ce processus commence tôt, puisque vous vous êtes interrogée sur la façon dont se formait le rapport à l'argent des enfants de 7 à 10 ans, ce qui pose une vaste question qu'il était temps de se poser dans cette émission que nous consacrons, comme je le disais, tous les lundis depuis le début de l'année aux Homo economicus. À partir de quel âge peut-on parler véritablement d'Homo economicus, selon vous? On entendait là les témoignages de Sarah, 12 ans, Simon, 10 ans, Samuel, 16 ans, Paul, 14 ans, et de leur père Jean-Yves dans un reportage réalisé par Marie Gorand pour le magazine La Maison des Parents diffusé sur France Télévisions en 2020. Est-ce qu'il s'agit effectivement de l'âge de l'adolescence ou même quand on se comprend les comportements des adultes et des adolescents, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui se jouait même avant cela?
Les travaux sur la question se sont beaucoup centrés effectivement sur l'âge adulte et l'adolescence, avec l'idée que ça serait le moment où en fait les personnes ont un rapport concret à l'argent, elles le dépensent et surtout aussi elles le gagnent. Et de plus en plus de travaux se sont intéressés à ce qui se passe avant. Parce que si on voit que déjà, il y a des personnes qui sont plus dans la recherche de l'accumulation ou d'autres qui vont plutôt dépenser leur argent dans des objets du quotidien, tandis que l'autre vont l'économiser, ça veut dire qu'il se passe quelque chose avant. Et ceci, vraiment, dès les premières années de vie, il y a des travaux sur les distinctions à 5 ans, sur ce qu'on fait de son argent. Et moi, j'ai plutôt travaillé sur 7-10 ans, ce qui correspond à l'âge du premier argent de poche pour les plus âgés et l'âge de la première visite à la boulangerie en toute autonomie.
Ce qui nous permet de battre en brèche peut-être une idée assez reçue. On a souvent l'impression, en tout cas l'idée, que les enfants ne s'intéressent pas forcément à l'argent, que ça ne fait pas partie de leur monde. Pour vous, ce n'est pas le cas. En fait, même au-delà d'une sociabilisation qu'on va explorer tout au long de cette émission, il y a déjà une forme d'intérêt pour l'argent chez ces relativement jeunes enfants.
Oui, les enfants sont généralement assez intéressés par l'argent parce que c'est un objet de grande personne. Et cet intérêt, il n'est pas exprimé partout dans tous les milieux sociaux. Ça va être plutôt, on va dire, dans ce qu'on va appeler des classes moyennes et supérieures du pôle culturel, donc ont un haut niveau de diplôme. Il va y avoir beaucoup d'efforts qui sont faits pour tuer dans l'œuf en fait cet intérêt que les enfants peuvent développer pour l'argent, comme ils développent un intérêt pour tout un ensemble de choses. Et là, assez paradoxalement, ces classes sociales qui d'ordinaire cherchent plutôt à développer la curiosité enfantine vont chercher au contraire à mettre sous cloche cet intérêt enfantin.
Ce qui est intéressant, Marion Claire, c'est que c'est une mise sous cloche, vous le dites. On pourrait presque se dire que c'est une forme de déni aussi, ou en tout cas une invisibilisation pour des raisons éducatives, en fonction de la classe sociale, du genre peut-être aussi de l'enfant. Mais si on revient à des considérations en ce qui concerne vos recherches, des considérations plus méthodologiques, épistémologiques aussi, est-ce que la raison pour laquelle vous vous êtes penchée sur cette population de jeunes enfants, c'est aussi parce que peu de monde le fait par ailleurs? Et si oui, comment finalement expliquer cette invisibilisation-là de cette sociologie de l'argent chez les très jeunes? Est-ce que les économistes qui parlent très souvent d'homo economicus, de rationalité aussi, ont tendance à occulter ce comportement des enfants?
Oui, exactement. En gros, mes travaux, ils sont inspirés un petit peu de deux réflexions. Il y en a une qui est celle qu'ont porté un certain nombre de sociologues sur la manière dont s'est formé l'homo economicus au cours du temps et comment en fait il y a eu un mouvement historique qui a transformé les comportements économiques. Donc ça va être des sociologues très canoniques. Enfin, ça va être Georg Simmel sur sa philosophie de l'argent, ça va être Karl Marx, ça va être Max Weber, donc des beaux patrons. Et à côté de ça, moi je me suis demandé, mais comment en fait se fabriquent les comportements économiques, non à l'échelle de l'histoire d'une société, mais plutôt à l'échelle de l'histoire d'un individu. Et c'est là où, en fait, on voit que les travaux qui ont été faits sur la question, ils se sont assez longtemps concentrés sur les jeunes et les adultes. Parce que, donc c'est l'hypothèse que je défends, c'est que, en fait, les enfants n'étaient pas pensés comme des acteurs économiques. Et ça hérite d'une idéologie, d'une manière de penser les enfants comme séparés de la sphère économique. Et donc ça, c'est une idée qui est pas la mienne, c'est l'idée de la sociologue américaine Viviana Zelizer qui défend l'idée qu'il y aurait une norme des sphères séparées et des mondes hostiles que les acteurs sociaux mettent beaucoup d'énergie à bien maintenir. Pour le dire un petit peu plus clairement, les enfants, les femmes aussi, la sphère privée sont le lieu d'échanges économiques. Et pourtant, les acteurs sociaux vont faire en sorte de vraiment d'essayer de séparer ces acteurs-là et de séparer la sphère intime de l'économie, de tout ce qui peut être considéré comme aussi le politique, le public, etc.
Et c'est très important d'insister sur ce passage, finalement, dans la prise en compte, dans la recherche aussi de la sphère privée à une sphère publique et à une sphère qui peut être analysée aussi en tant que telle, qui a un poids économique. Marianne Thivan, de votre côté, vous vous êtes penchée sur la façon dont la gestion de l'argent a été progressivement enseignée aux femmes au long du 19e siècle, et à plus forte raison dans la seconde moitié du 19e siècle. Il s'agit donc là aussi d'une forme de socialisation, alors pas exactement dans les mêmes sphères, mais tout de même en repartant de cette sphère plus privée, puisque vous intéressez au rôle des femmes. Pourquoi est-ce que c'est important de comprendre comment cette gestion est enseignée? Est-ce que cela permet de comprendre par quel type de biais, y compris politique, le rapport à l'argent est-il influencé à partir du moment où on se dit que ce rapport à l'argent est enseigné, transmis au sein d'institutions qui sont soutenues, qui sont financées ou non? On ne peut pas parler d'homo economicus comme une donnée naturelle. Est-ce que c'était cela aussi le but de vos travaux?
Tout à fait. Dans mes travaux, en fait, je montre que les femmes, hein, alors les femmes des classes moyennes, commerçantes, industrielles, hein, toute cette économie en France très forte autour de la petite entreprise, sont en fait formées dès la Restauration, hein, du moins les traces que j'ai pu commencer à voir, dès la Restauration, dès le début du 19e siècle, à des formes en fait d'enseignement de la comptabilité. Alors c'est, on va dire, d'abord une forme de comptabilité domestique. C'est ce que j'appelle un peu les apprentissages buissonniers ou les chemins de traverse pour apprendre quand même à tenir des comptes, à gérer les comptes, que ce soit les comptes en fait de la maison ou que ce soit les comptes de l'entreprise. Hein. Mmh. Tout au long du 19e siècle, on a des éditeurs qui diffusent des livres de comptes à bon marché où vous avez des colonnes entrées, dépenses. Et donc les femmes sont, on demande à ces femmes, donc de la bourgeoisie ou des classe moyenne, hein, commerçante, de tenir ses livres de compte, de les tenir tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, toute l'année, au centime près. Hein, c'est apprendre hein, l'ordre, la rigueur. Et donc l'idée, c'est donc de former à l'économie domestique, c'est-à-dire que les femmes de la bourgeoisie, bien, elles doivent apprendre à gérer du personnel, hein, à gérer un budget domestique. Et moi, je fais l'hypothèse qu'en fait, c'est cette comptabilité domestique qui se diffuse hein, par toute une série de manuels peut aussi avoir des usages commerciaux. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, on peut apprendre à tenir les livres pour faire les comptes du ménage ou alors pour régler les fournisseurs de l'entreprise familiale. Donc en fait, on a une diffusion de cet enseignement de la comptabilité et qui ensuite se poursuit à partir d'écoles et de cours dédiés. Et c'est un peu, c'est surtout l'objet du travail que j'ai réalisé donc sur ces femmes qui comptent, c'est-à-dire qu'en fait, on a des femmes, des pionnières, hein, Élise Luquin à Lyon en 1857, Élisa Lemonnier à Paris au tout début des années 1860, mais aussi Marguerite Malmanche à Paris, etc., etc., qui vont offrir des premiers cours d'enseignement à la comptabilité, donc soit sous la forme de cours du soir ou dans les premières écoles professionnelles. Et donc, en fait, ce contexte de création des formations, donc on situe dans les années 1850-1860, c'est-à-dire le Second Empire, ça permet en fait, en quelque sorte, de révéler, de lever le voile sur le travail des femmes dans l'entreprise familiale. Et c'est là qu'on arrive à cette fameuse idéologie des sphères séparées. Je rejoins tout à fait Marion Clerc et puis les chercheurs et les chercheuses qui nous ont précédés. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, travailler sur les cours, les écoles commerciales, la formation des femmes à la comptabilité au 19e siècle, c'est en quelque sorte lever le voile sur l'engagement économique des femmes qui avait été quand même masqué justement par cette idéologie des sphères séparées. C'est-à-dire, les femmes, c'est le privé, la famille, l'amour, la féminité, les loisirs, le hors-marché, le non-travail. Et les hommes, bah c'est le contraire, hein, le public, la culture, la rationalité, masculinité, politique et le travail. Et donc les historiennes du travail, des femmes, alors les modernistes n'ont pas attendu les contemporanistes pour le faire, mais en histoire contemporaine, on a tout un mouvement, on a plein de travaux qui essaient de détricoter cette question des sphères séparées, qui vont la complexifier, cette analyse des sphères séparées, et qui montrent qu'en fait les deux sphères sont très mobiles, elles sont poreuses, elles sont négociables. Donc on a on a plus de travaux aujourd'hui sur l'engagement économique des femmes au 19e siècle. En revanche, on avait très peu de travaux sur mais où est-ce qu'elles apprennent à compter, hein, ça tombe pas du ciel, hein, de faire une comptabilité à partie double, hein. Donc moi, tout l'objet de mon travail, c'était justement de mettre en avant et de chercher de recueillir des informations sur ces cours et ces écoles de comptabilité pour les femmes.
Alors, pour bien comprendre l'apport théorique qui vous a précédé toutes les deux et qui a structuré aussi la vision que vous avez de vos terrains et de vos objets de recherche, je vous propose d'écouter la fameuse sociologue Viviana Zelizer qui expliquait justement sa démarche le 13 novembre 2019.
Une des raisons pour laquelle je suis restée pendant un certain temps à la périphérie de la sociologie économique dominante, c'est parce que j'ai choisi de me concentrer sur une série de sphères économiques situées en dehors des entreprises capitalistes et des marchés de production qui peuplent le courant dominant. Ainsi, j'ai étudié des domaines tels que les économies intimes, les ménages, le travail du soin, les échanges de cadeaux, les envois de fonds, le bien-être et la consommation. Cette perspective élargie fait tomber les frontières artificielles entre les sphères économiques, entre guillemets, réelles, supposées plus solides, et les économies triviales, supposées périphériques. Alors certes, il faut considérer la variabilité des différents types de marchés et des transactions monétaires. Cependant, le fait de reconnaître l'existence d'un territoire économique élargi nous éloigne des dichotomies qui sont à la fois sentimentales et erronées. Cela remet en question ce que j'ai appelé la vision hostile du monde, qui divise le monde entre sphères d'activité économique et sphères personnelles, avec l'effet souvent pervers d'accroître les inégalités économiques pour ceux qui sont impliqués dans les domaines économiques plus personnalisés et donc supposés moins sérieux.
Marion Claire, cette question de la légitimité finalement de la prise en compte de cette sphère intime, de cette sphère dite privée, parce qu'elle a un impact, parce qu'elle a aussi des implications directes sur une sphère publique, est extrêmement intéressante pour qu'on comprenne bien ce dont il s'agit, et notamment dans le cas de l'éducation des enfants à l'argent. Il y a quelque chose qui peut sembler relativement intuitif, il y a cette idée que, oui, effectivement, le rapport à l'argent n'est pas inné, il ne tombe pas du ciel, c'est ce que disait Marianne Thivant sur l'éducation à la comptabilité, mais ça vaut aussi pour les enfants, il n'est pas inné, et on peut se dire que ce sont en premier lieu les parents qui forment les enfants, un certain rapport à l'argent, etc. Mais quelque chose de moins intuitif et qui transparaît aussi dans vos travaux, c'est qu'aussi ce rapport à l'éducation et la façon dont on forme les individus très jeunes à l'argent est lié à un contexte économique beaucoup plus global, la façon dont on décide d'enseigner notamment un certain sens de l'épargne mais aussi de la consommation aux enfants est lié à un contexte macroéconomique, est lié à un contexte capitaliste. Ça aussi, c'est ces deux dimensions-là qu'il faut prendre à chaque fois en compte dès lors qu'on parle de sociabilisation des enfants.
Oui, c'est vrai qu'il y a toute une partie d'éducation à l'argent à l'école. Après, dont l'effet concret en termes de socialisation est toujours un petit peu difficile à évaluer. Mais en tout cas, c'est sûr qu'au cours de l'histoire, il y a eu plusieurs moments où l'école a investi l'éducation à l'argent et toujours de manière un petit peu différente. Par exemple, vers les débuts de la Troisième République, un des grands enjeux, ça va être de gérer tout ce qui va être ce qu'on appelle la question sociale, donc la pauvreté en fait qui émerge de l'industrialisation rapide et aussi en fait les inquiétudes en termes de stabilité du régime qui peuvent y être liées. Et donc un des enjeux, enfin une des manières dont va être pensée l'éducation à l'argent, en fait ça va être une éducation à l'épargne. Et pourquoi ? Parce que l'épargnant, c'est quelqu'un qui fait chaque jour ce petit geste régulier d'épargne. Donc c'est quelqu'un qui sait tempérer ses pulsions, par exemple, de consommation. C'est quelqu'un qui va être aussi attaché à la propriété, donc attaché à la stabilité du régime. C'est très en phase avec l'idée d'une république plutôt bourgeoise, une république de petits propriétaires. Il y a aussi un enjeu un petit peu plus macroéconomique, donc là qui concerne plutôt des classes sociales un petit peu plus aisées déjà, qui va être d'essayer d'amener déjà quelques Français à poser leurs économies sur des livrets et donc en fait les rendre disponibles pour être emprunté, pour être utilisé notamment par les pouvoirs publics sous forme d'emprunt, par exemple.
Et peut-être une petite précision, j'en profite, Marion Clerc, vous parlez, dès lors qu'il est question de socialisation à l'argent dans la sphère privée, de savoir économique ordinaire, et c'est bien ce dont on parle aujourd'hui, c'est cette éducation à l'argent qui n'est pas l'éducation à l'économie dans sa globalité, il faut faire une distinction entre les deux. Qu'est-ce que vous entendez précisément par savoir économique ordinaire ?
Les savoirs économiques ordinaires, ça va être ce qu'on va mettre en œuvre tous les jours sans forcément y penser. C'est-à-dire le fait de savoir dépenser, le fait de savoir comment fonctionne une banque, mais aussi des choses vraiment de l'ordre de la pratique. Enfin, c'est-à-dire, on sait comment se comporter chez un commerçant ou une commerçante. On sait qu'il faut dire bonjour, qu'il faut, par exemple, si on n'est pas dans un système de libre-service, et on sait qu'il faut demander ce qu'on veut et ensuite réceptionner la marchandise, mais avant de la prendre, il faut payer, etc. Ce qui me permet d'insister sur le fait que, je pense que ce qu'on a en commun avec Marianne Thivan, c'est d'insister sur le côté très pratique de ces savoirs et non pas sur la rationalité comme quelque chose qui est plutôt de l'ordre des mentalités, de l'idéologie.
Et Marianne Thivan, est-ce qu'il faut effectivement, y compris dans le cas de ces femmes qu'on va voir tout au long du 19e siècle, mais est-ce qu'il faut effectivement opérer une distinction nette entre apprentissage de la gestion de l'argent et apprentissage de l'économie comme savoir, comme discipline de façon plus globale ? On ne parle pas là des mêmes savoirs dispensés, y compris dans un cadre scolaire, ce n'est pas tout à fait la même chose.
Tout à fait, en fait, moi je peux prendre par exemple le parcours d'Élise Luquin, donc cette femme institutrice qui fonde un des premiers cours de comptabilité pour les filles et les femmes à Lyon en 1857. Et donc si on retrace sa biographie, ce que j'ai pu faire dans le livre, en fait Élise Luquin c'est une fille du milieu de la soierie lyonnaise, de la fabrique, et donc elle est vraiment socialisée en fait au monde de la fabrique, c'est-à-dire que alors son père il est dessinateur, marchand fabricant, ses oncles sont négociants, courtiers en soie, commis, etc., etc. Tout le monde est impliqué, toute la famille est impliquée dans le négoce. Et je pense qu'Élise Luquin, en fait, elle est d'abord socialisée à ce monde-là. Alors, qu'est-ce qu'elle apprend exactement ? Bah ça, je peux pas vraiment l'attraper par les archives. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est que je fais l'hypothèse qu'elle acquiert dans la famille, parce que ça, c'est une évidence de tous les temps, qu'on apprend dans la famille, justement, avant que l'école ne se généralise. Je pense qu'elle est au contact vraiment de l'atelier de soierie, c'est-à-dire qu'elle voit les couples qui calculent les salaires des apprentis, qui opèrent la balance entre les dépenses et les revenus, qui est le prix de revient de chaque métier, qui tiennent les livres. Donc en fait, je pense qu'il y a une socialisation à ces savoirs. Ce qui va changer, en fait, avec la mise en école des femmes pour apprendre la comptabilité et puis la mise en école tout court des savoirs comptables, c'est que justement, il y a tout un mouvement tout au long du 19e siècle, c'est qu'on veut sortir de l'empirie de ces savoirs-là, qui sont acquis sur le tas, et on veut donc rationaliser cet apprentissage de l'économie. Alors ici au cœur la comptabilité, on veut le sortir complètement de l'empirie. Donc je pense qu'Élise Luquin, son parcours témoigne beaucoup de ce mouvement, et elle est issue de ce monde de la soierie, elle sait très bien qui compte, elle sait à peu près ce qu'il faut compter, mais son argumentaire pour créer le premier cours et puis pour développer ensuite les autres formations se fonde en fait sur les besoins de l'entreprise familiale. Il faut former les femmes. Et pourquoi il faut former les femmes ? Elle a un argument qui fait mouche, c'est que ce sont des partenaires dans la famille. C'est-à-dire qu'elle travaille déjà dans la famille. Elle le sait bien. Elle voit bien sa mère, etc. Et donc, du coup, si on les instruit des règles de la comptabilité, eh bien, elles vont être des bons remparts contre la faillite et elles sont fiables, puisqu'elles ne vont pas partir avec la caisse.
Et il faut insister là-dessus, Marianne Thivan, ce n'est pas parce que les écoles apparaissent à ce moment-là que les femmes n'avaient pas déjà ce rôle-là au sein des entreprises familiales, mais vous l'avez déjà dit, il s'agit d'un rôle relativement invisibilisé. Vous le dites, il faut désormais former les femmes, rationaliser cet apprentissage. Or, ce rôle de la femme était jusque-là, on va dire, mis sous cloche là aussi, une forme d'invisibilisation. C'est une situation que connaît le personnage fameux de Gervaise dans l'Assommoir d'Émile Zola, paru en 1877, lorsque son mari Coupeau, ouvrier zingueur, tombe du toit d'une maison. C'est sur ses épaules que retombe la charge de la gestion, entre autres financière, de la maison.
Gervaise, depuis longtemps, s'était remise au travail. Elle n'avait plus la peine d'enlever et de replacer le globe de la pendule. Toutes les économies se trouvaient mangées. Et il fallait piocher dur, piocher pour quatre, car ils étaient quatre bouches à table. Elle seule nourrissait tout ce monde. Quand elle entendait les gens la plaindre, elle excusait vite Coupeau. C'était elle qui l'empêchait de travailler en lui répétant chaque matin de prendre son temps, de ne pas se forcer. Elle lui glissait même des pièces de 20 sous dans la poche de son gilet. Peu à peu, cependant, la jeune femme s'attrista. Matin et soir, elle allait rue de la Goutte d'Or voir la boutique qui était toujours allouée. Et elle se cachait comme si elle commettait un enfantillage indigne d'une grande personne. Cette boutique recommençait à lui tourner la tête. La nuit, quand la lumière était éteinte, elle trouvait à y songer, les yeux ouverts, le charme d'un plaisir défendu. Elle faisait de nouveau ses calculs, 250 francs pour le loyer, 150 francs d'outils d'installation, 100 francs d'avance afin de vivre 15 jours, en tout 500 francs, au chiffre le plus bas. Si elle n'en parlait pas tout haut, continuellement, c'était de craindre de paraître regretter les économies mangées par la maladie de Coupeau. Elle devenait toute pâle souvent, ayant failli laisser échapper son envie, rattrapant sa phrase avec la confusion d'une vilaine pensée. Maintenant, il faudrait travailler 4 ou 5 années avant d'avoir mis de côté une si grosse somme. Sa désolation était justement de ne pouvoir s'établir tout de suite. Elle aurait fourni aux besoins du ménage, sans compter sur Coupeau, en lui laissant des mois pour reprendre goût au travail. Elle se serait tranquillisée, certaine de l'avenir, débarrassée des peurs secrètes dont elle se sentait prise parfois, lorsqu'il revenait très gai, chantant, racontant quelques bonnes farces de cet animal de mes bottes auquel il avait payé 1 litre.
Marianne Thivan, Gervaise est ouvrière, elle vient et évolue dans un milieu très populaire, dans une pauvreté qui est décrite tout au long de l'Assommoir. Lorsque la question de la formation des jeunes filles et des femmes émerge dans ces années 1850-1870, est-ce que c'est à cette catégorie de population que l'on pense ?
Pas exactement. Puisqu'en fait, les premières formations, enfin, d'une manière, la formation professionnelle, pour les filles, bah, c'est des formations après l'école primaire. Hein, après l'école primaire, donc il faut que les familles consentent à prolonger 1 an, 2 ans la scolarité, donc qui devient obligatoire avec les lois Ferry. Et donc, cette prolongation de scolarité, c'est une toute petite frange des classes populaires, les classes populaires, on va dire, les plus stables, hein, les plus installées. Mais en réalité, si on remonte même la période, les cours, le public des écoles Le Monnier à Paris, des écoles professionnelles donc qui forment au commerce, mais qui forment aussi au métier de l'habillement, de la couture, de toute la petite industrie un peu de semi-luxe parisienne, elle s'adresse plutôt aux petites classes moyennes, hein, donc les filles des boutiques, les filles de l'entreprise commerciale, industrielle, qu'on connaît assez peu, puisqu'en fait, l'historiographie, elle a plutôt mis en avant la bourgeoise, hein, une catégorie peut-être un peu trop homogène, et qui nous a empêché de voir, en fait, à l'intérieur de cette catégorie, toutes les situations possibles, mais entre autres, toutes ces filles des petites classes moyennes, donc industrieuses, commerçantes, entrent en formation professionnelle, enfin pas toutes, hein, mais c'est le public des premières formations professionnelles qui se mettent en place donc à ce moment-là, hein, années 60-70, et pas seulement en France, hein, c'est un mouvement qu'on retrouve à l'échelle européenne.
Marianne Thivan, si on fait le bilan, si on comprend bien, c'est qu'il y a à la fois, vous nous l'avez dit, déjà des manuels ou tout un ensemble de littérature, on va dire, qui circulent. On peut citer entre autres le manuel complet de la maîtresse de maison et de la parfaite ménagère de Madame Selnard, qui connaît 5 éditions entre 1826 et 1839. Il y a déjà donc une volonté d'éduquer, on va dire, à la science du foyer qui transparaît au moins dans cette littérature-là. De l'autre côté, vous l'avez dit, il y a cette volonté de rationaliser l'apprentissage de la comptabilité. qui ne rentre pas vraiment dans cette préoccupation pour la question sociale. Ça s'adresse à un public déjà, qui a déjà une forme de scolarité, déjà des bases, on va dire ça comme ça. Alors la question se pose, pourquoi la question se concentre, se cristallise autour de la question de la comptabilité, sachant qu'on pourrait se dire, voilà, les jeunes femmes relativement cultivées savent déjà tenir un foyer, les autres se débrouillent au sein de l'entreprise familiale. Pourquoi faut-il rajouter une dose de savoir, une dose de compétences rationalisées à cette époque-là?
Il faut justifier l'entrée sur le marché du travail aussi salariés des femmes de ces petites classes moyennes. Si on reprend l'argumentaire d'Élise Lucquin et puis que d'autres vont tenir, donc pour soutenir la création du cours lyonnais, qui est quand même un cours public, hein, financé par une chambre de commerce, donc il faut quand même avoir des soutiens. Donc je l'ai dit, hein, c'est pour avoir des épouses et des filles de instruites des règles comptables. Je rappelle quand même que la comptabilité devient une affaire aussi de plus en plus complexe, tout au long du 19e siècle, et que donc on a le code du commerce, hein, voilà, dès le début du 19e siècle, qui impose toute une série de règles comptables qu'il faut connaître. Hein. Donc l'argument, c'est vraiment, voilà, il faut des partenaires familiales formés, donc fiables. Mais par extension, et ça c'est un élément très très important, et on comprend mieux aussi cette mise en école, hein, des femmes donc pour apprendre les savoirs professionnels et notamment comptables, c'est qu'en fait si ces femmes sont éduquées à la comptabilité, bah ça va justifier qu'elles briguent des postes à l'extérieur de l'entreprise familiale. C'est-à-dire qu'en fait pour ces pionnières, c'est un peu mettre le pied dans l'embrasement de la porte en disant voilà, elles sont dans l'entreprise familiale, mais bon, du coup elles ont aussi les savoirs pour être embauchées à l'extérieur. Et donc, je pense que là, c'est un point qui est très très important. L'argumentaire des pionnières, hein, de l'enseignement commercial et on va dire de l'enseignement professionnel, il est toujours marqué par une forme d'ambivalence en fait. C'est-à-dire que d'un côté, on se conforme à l'ordre du genre. Et de l'autre côté, la formation a pour objectif d'émanciper économiquement les femmes. Le contexte quand même de ces années 60-70, c'est aussi une reprise des projets féministes, hein, d'une émancipation économique des femmes par le travail et l'éducation. Hein. Juliette Adam, Julie-Victoire Daubier, Paul Minck, hein, développent ces idées et elles relient le droit à l'éducation au droit au travail pour les femmes. Donc en fait, il y a cette revendication d'un accès à un enseignement professionnel pour leur permettre de revaloriser leur salaire, pour leur permettre de vivre dignement de leur travail. Mais les pionnières, elles sont aussi prudentes. Hein, elles sont prudentes. Lucquin, elle défend des formations qui permettent de former des filles qui vont travailler sous le regard très vigilant du mari ou du père. Et en même temps, Lucquin, elle publie un ouvrage de droit commercial dans les années 80, 1886, où elle explique comment faire pour les femmes mariées pour faire avec les contraintes du Code civil de 1804. Je rappelle, hein, femmes mariées, donc elles sont des mineures aux yeux de la loi, donc elles ne peuvent pas, il y a toute une série d'actes juridiques qu'elles ne peuvent pas faire en tant que commerçantes, donc elle explique aux femmes comment faire avec les contraintes du code civil. Donc en fait, elle apporte des outils d'autonomie économique. Donc on a toujours cette ambivalence dans le discours, hein, entre il faut rassurer, on ne va pas bousculer l'ordre social et l'ordre genré, surtout. Et en même temps, on donne les outils aux femmes de plus d'autonomie économique, parce que de la famille, on peut passer au salariat ou monter sa propre entreprise.
Et on retrouve bien cette ambition et cette ambiguïté aussi, peut-être à travers le personnage, entre autres, de Joséphine de Marcef-Girard, qui en 1863 est la première directrice des écoles professionnelles parisiennes Le Monnier, hein, du nom d'Elisa Le Monnier, que vous avez déjà mentionné, Marianne Thivan. Ce sont des écoles qui sont privées et payantes. Elle est interrogée dans le cadre d'une enquête sur l'enseignement professionnel, donc en 1863, et elle estime qu'il est nécessaire de rendre les femmes plus intelligentes et plus spéciales. Les femmes seront admises avec beaucoup d'empressement dans le commerce et l'industrie dès qu'elles seront capables d'en remplir les emplois. Or, c'est qu'elles ne sont pas en état de faire actuellement par suite de l'éducation un peu superficielle qu'il leur est donnée. Voilà, on voit que cette ambition-là dépasse le simple cadre familial. Mais est-ce que, Marianne Thiévan, les familles suivent ? Est-ce que on voit effectivement des jeunes femmes se bousculer au portillon ? Parce qu'on pourrait se dire que les familles qui ont besoin d'avoir des comptables loyales, vous l'avez dit vous-même, et compétentes, vont les garder pour eux et n'ont pas forcément intérêt à les voir aller sur le marché du travail de façon plus large.
Non, on peut pas dire que les familles se bousculent. En fait, les directrices d'établissement, les inspectrices de l'enseignement commercial, hein, je passe toute la phase d'institutionnalisation de ces formations professionnelles qui ont lieu au tout début de la Troisième République, elles n'ont de cesse de promouvoir leur formation. Il faut convaincre, d'une part, les familles faire un sacrifice d'une poursuite de scolarité d'un an ou de deux ans, eh bien, ça va vraiment servir la jeune fille à trouver du travail, à être ou alors plus compétente dans l'entreprise familiale. Mais il faut aussi convaincre les employeurs d'embaucher des femmes formées et de les rémunérer à hauteur de leur formation, ce qui n'est pas du tout le cas pour cette période. Moi, j'ai travaillé, j'ai essayé de voir ce que devenaient certaines des élèves formées. Alors, j'ai fait un travail spécialement sur Lyon. J'ai aussi également travaillé sur Paris. C'est sûr que ces filles diplômées, j'en retrouve beaucoup dans l'entreprise familiale, mais c'est parce que c'est là où, en fait, où je peux mieux les retrouver. En revanche, dans le salariat, c'est beaucoup plus compliqué, et les directrices d'établissement s'inquiètent à la fin du 19e siècle, en fait, de voir qu'en fait, elles font un effort pour former les filles, mais que les salaires ne sont pas au rendez-vous. Donc il y a toujours la même question, finalement, qu'est-ce qui fait le salaire? Est-ce que c'est le diplôme ou est-ce que c'est le genre? C'est clair qu'à la fin du 19e siècle, et ça sera encore le cas longtemps, c'est le genre. C'est-à-dire, elles sont femmes, donc elles ont tel salaire.
Mais ce qui est intéressant, Marianne Nativant, et on retrouve là ce qu'on disait en début d'émission, cette idée qu'il y a un contexte politique, macroéconomique aussi, qui joue et qui infuse sur ces questions d'ordre plus privé, c'est que on a un peu envie de se demander comment sont perçues ces velléités de toutes ces femmes, de toutes ces pionnières que vous venez d'évoquer, lorsque des Juliette Lambert devenues Adam en 1858 ou des Julie Victoire Daubien en 1866 se saisissent justement de la question des bas salaires des femmes liées à l'absence de formation. Est-ce que ce discours trouve un écho plus large auprès des politiques et des économistes de l'époque?
Alors oui, autrement, je pense que ça aurait pas marché, en fait. Donc en fait, ces femmes, elles doivent trouver des alliés. Donc en fait, elles construisent des discours qui soient audibles. Elles peuvent pas dire on va former les femmes à la comptabilité pour les émanciper économiquement. Je veux dire, je pense que ça elles n'obtiendraient pas les budgets. En fait, si on regarde le discours qui se construit des économistes libéraux, donc à la fin du Second Empire, quand ces premières formations justement voient le jour, on voit qu'en fait ils soutiennent ces formations. Je peux citer Michel Chevalier, qui est conseiller économique de Napoléon III, qui est un libéral, et qui dès le début des années 60, en 1862 exactement, il va soutenir lors de l'exposition universelle de Londres le cours lyonnais d'Élise Lucas. Je le cite, « Une femme qui sait la tenue des livres est un trésor pour l'artisan, le boutiquier, le petit manufacturier, l'agriculteur. Elle contribue à la prospérité de sa famille, etc. etc. » Donc en fait, on les renvoie à la famille. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire, le gendre de Michel Chevalier, Paul Leroy Beaulieu, 10 ans plus tard, en fait, il va reprendre cette idée, mais il l'adapte à la théorie des deux sphères, à la théorie des sphères séparées. C'est-à-dire que, pour lui, une bonne instruction commerciale des femmes, ça va permettre, justement, de mettre en œuvre et de sceller la division sexuée du travail que commande la nature. Aux femmes qui sont, par nature, habile et patiente, eh bien, c'est le commerce dit passif, c'est-à-dire qu'elles sont attachées aux tâches sédentaires, aux écritures dans l'entreprise, quand les hommes, eux, vigoureux, on va dire indépendants, eh bien, eux, c'est le commerce dit actif, c'est-à-dire c'est la négociation commerciale à l'extérieur. C'est-à-dire que la théorie des sphères séparées, elle donne une nouvelle dynamique au commerce, en utilisant les capacités productives des hommes et des femmes formées, et donc ces femmes instruites de la comptabilité, elles peuvent faire, et je cite Paul Leroy Beaulieu, des subalternes capables. Donc en fait, l'acceptation de former les femmes au savoir de la comptabilité, il est assorti de ce compromis, c'est-à-dire on les forme, mais ça ne doit pas changer l'ordre du genre dans la famille et puis plus largement sur le marché. Les femmes demeurent auxiliaires de leurs parents ou maris ou de leurs patrons. Et à cette condition, je pense que l'éducation commerciale féminine, elle devient acceptable aux yeux des libéraux, elle va se développer.
Bonjour madame, une baguette s'il vous plaît. Alors, ça va mieux?
Oui.
C'est pas
fille.
Oui, bien sûr.
Une baguette. Les arrières sont belles.
Une baguette.
85. 90. Afro.
Merci bien, madame.
En règle générale, la femme avait la charge des relations avec les clients, tout comme aujourd'hui dans les boulangeries parisiennes. Installée derrière le comptoir, dans les boutiques les plus opulentes, on peut dire qu'elle trônait, elle bavardait avec les clients, veillant à ce qu'ils restent dans de bonnes dispositions et soient fidèles à la maison. Elle recevait les espèces qu'elle plaçait dans une caisse où elle faisait crédit, tenant les comptes sur un registre ou à l'aide d'un jeu de taille. La gestion du crédit était une tâche compliquée à l'extrême et décisive, surtout quand l'on sait la place considérable de la vente à crédit dans la boulangerie. La femme devait tenir une multitude de comptes particuliers en même temps, elle devait décider souvent de son propre chef si elle devait faire crédit à tel acheteur et si oui, dans quelle mesure.
Un extrait de Daguerréotype, le film documentaire d'Agnès Varda sorti en 1975, suivi d'une lecture de l'ouvrage de l'historien Steven Kaplan, Le meilleur pain du monde, les boulangers de Paris au XVIIIe siècle. Finalement, ce qu'on comprend, Marianne Thivain, c'est que l'enseignement spécifique à la comptabilité ne change pas foncièrement la division sexuée du travail, c'est ce que vous nous disiez, et donc à l'ordre établi et genré au sein des entreprises, se pose tout de même une question. Pourquoi cet enseignement, lui, est spécifiquement genré? Est-ce que c'est parce que les garçons, les hommes de façon générale, eux ont accès depuis plus longtemps que cela à un enseignement qui, lui, ne se cantonne pas, on va dire, aux règles comptables, ce qui peut aussi poser la question de ce qu'on apprend véritablement dans ces écoles spécifiquement dédiées aux femmes, Marianne Thivain?
Alors, pour savoir ce qu'on apprend exactement dans les écoles, il nous manque malheureusement des archives hein, pour entrer dans la boîte noire des écoles, c'est-à-dire voir un peu les décalages entre les programmes de cours qui sont souvent très ambitieux et puis ce qu'on fait très concrètement. Il faut s'adapter au niveau des élèves, etc. Et puis à une époque, alors là je parle pour la fin du 19e siècle, hein, où les scolarités même post-obligatoires qui sont complètes, elles sont très rares. Hein, les abandons en cours d'année sont très très nombreux, justement pour ces jeunes qui entrent sur le marché du travail. Alors, ce que je peux dire, si je veux comparer la formation commerciale des hommes et des femmes, et on voit bien comment, en fait, ces formations se construisent à partir d'une ligne de genre. Donc, ce travail du genre, c'est-à-dire cette construction sociale du masculin et du féminin, et comment ça s'imbrique dans des rapports hiérarchiques de pouvoir, hein, en fait, si on regarde les cours qui se mettent en place à la fin du 19e siècle, de manière générale, garçons et filles, hommes et femmes, ce qu'on constate, c'est que plus les femmes sont formées à la comptabilité, plus les hommes essayent de se démarquer des lieux de formation et des activités occupées par les femmes en comptabilité. Et les formations, vraiment, prennent cette marque du genre. Au début, les programmes sont très proches, hein, si ce n'est que les garçons font plus de langue vivante, parce qu'ils sont appelés à négocier ce que ne font pas les filles. Ce qu'on voit très vite, quand même, c'est, dès la fin du 19e siècle, les femmes, elles n'ont pas accès à des cours de perfectionnement de comptabilité, hein, et de commerce en général. Ce sont des cours qui sont réservés aux hommes. Dans les cours du soir, des associations d'éducation populaire, d'éducation industrielle, donc ces cours du soir pour le peuple, en fait, les hommes des classes populaires, eux, peuvent suivre des cours de comptabilité gradués pour éventuellement obtenir des postes de chef pour faire carrière. Les femmes, elles restent à un poste de débutant. Pire, à la fin du 19e siècle, enfin pire, c'est pas que c'est pire, mais à la fin du 19e siècle, dans ces cours du soir de comptabilité, je prends par exemple l'exemple de la Société académique de comptabilité, qui est une grosse association de défense du métier de comptable, les femmes sont admises dans des cours mixtes, mais plus on avance vers la fin du siècle et au tout début du 20e siècle, la société crée des cours de sténodactylographie, encourage les femmes à suivre ces cours de sténodactylo, et donc finalement consolide cette ligne de genre. D'un côté, on a des cours pour former les femmes à la tenue des livres et sténodactylographie, donc en gros pour tenir les écritures dans l'entreprise, et on va former les hommes à une comptabilité plus complexe, avec plusieurs niveaux. Donc on va former des hommes, je reprends l'expression, des hommes comptables, de vrais comptables, qui par la suite deviendront les experts comptables. Donc en fait, on a une ligne de genre qui est très visible. On regarde tout le XXe siècle, hein, le CAP d'aide comptabilité, de commis de comptabilité, c'est un CAP qui est créé en 1927. Il est mixte sur le papier, et puis il est mixte dans les faits, c'est-à-dire que dans les années 50, vous avez autant de garçons qui obtiennent le CAP d'aide comptable que de filles. Donc c'est quand même très intéressant. En revanche, quand vous montez la hiérarchie, au niveau de la hiérarchie des savoirs, et si vous allez dans les écoles supérieures de commerce, où les filles commencent à être admises à partir de la Première Guerre mondiale, hein, on va pas préparer les femmes au concours, justement, pour l'expertise comptable. Et l'Institut de technique et d'expertise comptable, qui est créé pendant l'entre-deux-guerres, en 1927, il n'est pas spécialement fermé aux femmes, mais en fait, les femmes vont mettre beaucoup de temps à accéder à ce plafond de verre de la profession qui est l'expertise comptable. Je vous donne juste deux chiffres. Hein. En 1955, on avait seulement 3 femmes qui obtenaient le brevet d'expert comptable. Et dans les années 70, on avait 2% de femmes expertes comptables. Alors aujourd'hui, on est plutôt à 26%. Hein. Donc en gros, il a fallu un siècle, voire plus d'un siècle, hein, pour briser le plafond de verre.
Ce qui est intéressant, Marion Clerc, c'est que, si on revient un tout petit peu avant, c'est que ce contexte de la fin du 19e siècle, vous nous le disiez en début d'émission, est marqué par une gestion, une forme d'apprentissage de la gestion de l'argent, où la question de l'épargne prend une très grande importance. On a vu, c'est lié aussi au contexte politique. Vous l'avez dit, ce sont les lois scolaires de Jules Ferry, donc 1881-1882, qui met cet apprentissage de la prévoyance comme une obligation au programme. Est-ce qu'il s'agit là, Marion Clerc, d'un apprentissage spécifique, ou il se fait par le véhicule d'autres disciplines, comme les mathématiques par exemple? En fait, dans quelle mesure on met le savoir économique aussi au sein de ces écoles?
Oui, au 19e siècle, on a plusieurs manières de transmettre l'apprentissage de l'argent. Il y en a une qui est une institution qui est un petit peu à part, même si effectivement elle a reçu le soutien de Jules Ferry et de plusieurs ministres, administrateurs, etc., qui sont les caisses d'épargne scolaire, qui est une institution qui est née en fait dans les années 1830 et qui revit dans les années 1870, au point de concerner une école sur 7 au milieu des années 1870. Et l'idée, c'est que l'instituteur ou l'institutrice collecte les petites pièces qui sont apportées par les enfants, et elle les met sur un compte qui peut être un compte personnel ou un compte d'école. Et l'autre manière, ça va être d'insérer ces questions d'argent au sein des programmes de mathématiques. Et par exemple, en faisant porter des problèmes sur ce que la rente rapporte au rentier, mais surtout combien d'argent il peut donner aux pauvres pour la charité, ou alors des problèmes qui se demandent combien l'ouvrier peut dépenser pour ses plaisirs sans mettre en danger sa famille. Donc voilà, on voit un petit peu le lien ici entre une dimension moralisatrice et une dimension un petit peu éducatrice à l'argent.
Et vous dites d'ailleurs, Marion Clerc, que l'éducation à l'épargne est une éducation morale dont l'objectif n'est pas tant de réformer les comportements que de rappeler les normes dominantes. Là, tout est dit, c'est une forme de formation à l'esprit du capitalisme, finalement.
Oui, en quelque sorte, puisque on enseigne bien cet esprit d'assaise, etc. Après, qui nous dit que ça a un effet concret ? Plusieurs historiens et sociologues de la protection sociale aussi s'étaient un petit peu penchés sur l'effet en termes de protection individuelle, de protection de l'individu. Parce que la promesse, en fait, qui est derrière cet acte d'épargne, ça va être surtout le fait de se constituer un pécule qui permet de s'assurer soi-même. En gros, c'est une solution qui n'est pas la charité, qui n'est pas les protections collectives qu'on peut connaître avec des états-providence développés, mais ça va être l'idée que en capitalisant, on peut s'assurer soi-même. Donc on retrouve ces discours aujourd'hui. Et ce que des historiens comme François Ewald ont montré, c'est que en fait, c'est c'est très peu probable que les personnes aient pu se protéger avec cette épargne-là, parce qu'en fait, elle est tout de même minime. Mais par contre, l'idée, c'est un peu, effectivement, de continuer à moraliser, et ce que vous disiez, d'inculquer cet esprit, même si, en pratique, les effets ne sont pas forcément tangibles.
C'est une forme de culture financière donc, qui imprègne quelque part l'éducation à l'argent, alors que ce soit au sein des institutions comme l'école, dans les cours spécifiquement conçus à destination des femmes, mais aussi au sein de la sphère privée. Apprendre à gérer l'argent, c'est aussi, voire surtout, inculquer des valeurs. C'est ce que nous allons voir dans quelques instants.
C'est qui la personne qui fait battre votre cœur ?
Battre votre cœur ? C'est quoi cette expression toute pétée, là ?
Ben, moi, c'est Julie.
Ben, moi aussi, en fait, c'est Julie.
Moi aussi.
Moi aussi.
Pendant 15 minutes, ils se sont un peu fait la gueule. Pour améliorer l'ambiance, on est allé acheter du coca, comme on s'était cotisé. On l'a bu dans un parking, on s'est posé un peu, les gars, ils ont fait la paix. On a volé un caddie, puis on est rentré, quoi, et on a regardé des clips.
Au fond de mes poches, j'ai mon fouillé, mais je ne trouve pas le bon chose. Je n'ai que 10 francs chaque semaine, mais c'est quand même quelque chose. Oh, mes parents se sacrifient pour que j'étudie. Car moi, je ne suis pas un fils à papa. Et qu'on finit, je voudrais gagner ma vie, car c'est quand même moche d'être sans argent de poche. Je prends 5 francs pour un dimanche, le reste c'est pour la semaine. J'ai le choix entre le cinéma, le bar et la fête de forêt. Pour aller au music hall avec tous mes amis, je me prive de sortie pendant 2 semaines et demie.
Les enfants qui cotisent pour acheter du coca dans la série Samuel d'Émilie Tranche diffusée sur Arte, suivie de L'argent de poche du groupe Sounders sorti en 1965. Entendez-vous l'écho se demande aujourd'hui comment sont formés les homo economicus que nous sommes censés être. Et nous sommes toujours en compagnie de Marianne Thivan et Marion Claire. Marion Claire, nous l'avons vu, l'enseignement de l'argent, des questions de budget sont doublés de considérations morales. C'est toute la question de l'épargne et de sa promotion à la fin du 19e siècle et au début du 20e. Est-ce que cette importance-là perdure jusque dans l'entre-deux-guerres ? Est-ce que progressivement, on voit d'autres considérations arriver sur la table.
Oui, tout à fait. À partir de l'entre-deux-guerres, ce thème de l'épargne commence à vraiment perdre en importance, y compris dans les manuels scolaires. Donc, je dis ça à partir d'une étude qui a été faite par Guy Vincent sur ces manuels. Et ce qu'on voit à ce moment-là émerger, ça va être des questions de budget, des questions de consommation qui prennent beaucoup d'importance après la Seconde Guerre mondiale. Justement parce que l'environnement économique a changé et que l'enjeu est plus tellement l'épargne, notamment parce que en fait on est plutôt dans un contexte inflationniste, que il existe des protections sociales, donc en fait une forme d'épargne obligatoire sous la forme des cotisations. Et par contre, notamment les décideurs politiques ou ceux qui portent l'économie, qui serait pas l'économie ordinaire, mais plutôt l'économie savante, pensent que la consommation devient un véritable enjeu et aussi un vrai levier de croissance économique. Et l'enjeu à ce moment-là, ça va être de permettre aux nouveaux consommateurs et consommatrices de rentrer dans cette société où la consommation prend plus de place, mais aussi où le crédit est plus facilement accessible aux particuliers, et donc de naviguer un petit peu dans ce monde-là.
Et au XXe siècle, de nouveaux problèmes émergent, donc se posent dans la question du budget, comme le raconte ce reportage du 11 juin 1970 au sein de l'Institut social ménager des pénitents blancs diffusé sur l'ORTF Limoges.
L'éducation ménagère devient aujourd'hui de plus en plus une nécessité. La femme du XXe siècle doit résoudre dans sa famille de nouveaux problèmes posés par les structures économiques actuelles, par les modifications du cadre de vie familiale du fait du changement des techniques inhérentes à l'administration d'un foyer. Aussi, former des cordons bleus ou des gestionnaires dans leur foyer, mais aussi et surtout des techniciennes, est le rôle d'une telle école.
Et depuis 1942, le diplôme d'État, monitorat d'enseignement familial ménager, avait essentiellement sanctionné des études, en fait, sanctionnant des techniques ménagères, et nos élèves étaient très souvent assimilés à de très bonnes ménagères, de très bonnes cuisinières. Depuis le 13 juin 1968, la création du BTS en économie sociale familiale révolutionne certainement cet enseignement et tout un changement à court. Et par conséquent, de très nouveaux débouchés sont offerts à ces nouvelles techniciennes. En définitive, il est bien certain que la vie familiale a énormément changé avec les responsabilités auxquelles elle doit faire face, responsabilités tant d'ordre économique que social, et que tous les nouveaux problèmes qui se posent à la vie familiale.
Marianne Thivant, on l'entend dans cet archive de 1965, les choses changent, il y a cette idée que la professionnalisation peut-être aussi des femmes est davantage assumée. Est-ce que c'est vraiment le cas à cette époque-là? Est-ce que ces dernières, est-ce que les femmes demandent aussi à davantage de professionnalisation dans l'obtention de ces savoirs de comptabilité?
Alors, on n'est plus du tout dans le même contexte. Là, on est dans les années 60-70, donc contexte de massification de l'enseignement secondaire, où les filles ont accès désormais à une même offre que celle des garçons. Donc ensuite, l'enseignement ménager, il va se redéfinir aussi pour survivre aussi à ce moment-là. Moi, ce qui me paraît vraiment intéressant. Alors moi, j'ai pas travaillé spécialement sur cet enseignement ménager pour cette période. En revanche, on commence à avoir des travaux justement, alors sur les usages en fait de cet enseignement, c'est-à-dire qu'est-ce qui reste. Et c'est ce que Marion Clerc disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, on a un enseignement, voilà, on apprend toujours à tenir les comptes, à faire de bonnes consommatrices dans cette société de consommation, et c'est aux femmes qui doivent gérer cela et qui doivent gérer le peu des finances familiales. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment elles font très concrètement. On commence à avoir des travaux qui analysent des carnets de comptes qui sont conservés dans les archives familiales, archives privées, égaux documents. Donc, je fais un petit peu un appel. Si vous avez retrouvé ou si vous avez conservé les carnets de comptes de parents, de grands-parents, ce sont des documents aujourd'hui qui intéressent vraiment les historiens et les historiennes. On parle un peu d'ethnocomptabilité, pour voir très concrètement comment les femmes, elles géraient au quotidien les dépenses, les recettes.
Eh bien, le message est passé, gageons qu'il trouvera des oreilles attentives.
J'ai appris comment utiliser l'argent. On a aussi appris des éco-gestes.
Je suis contente de faire ce jeu, on joue en équipe. En plus, on n'a pas tout le temps ça.
Je m'appelle Marie Bancourt, je suis à l'école Blomé. J'ai une classe de CE2 et aujourd'hui on a accueilli le jeu « J'invite une banquière ou un banquier dans ma classe ».
Moi je suis ravie de venir dans votre classe aujourd'hui. On va parler un peu d'argent, un peu de paiement. Et du coup moi j'ai envie de vous poser une question avant qu'on commence à jouer. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une banque ?
Oui. J'invite un banquier dans ma classe. C'est le dispositif d'éducation financière de la Fédération bancaire française destiné aux primaires. Placé sous le haut patronage du ministère de l'Éducation nationale et avec le label EDUCFI de la Banque de France, ce dispositif s'adresse aux enfants de 9 à 11 ans. À partir des situations de la vie quotidienne, le jeu coopératif incite les enfants à réfléchir ensemble et à se poser les bonnes questions.
Quand on n'a plus d'argent sur son compte en banque, est-ce qu'on peut quand même utiliser sa carte bancaire ?
Ça fait travailler notre cerveau, comme ça on est bien entraîné quand on sera adulte.
Une vidéo de promotion du dispositif « J'invite un banquier dans ma classe » réalisée en septembre 2024, dispositif mis en place en 2015 par la Fédération bancaire française. Marion Clerc, au nom de quoi l'éducation financière sort-elle finalement de la sphère privée familiale pour investir la sphère publique? Quel est l'objectif et pourquoi ce sont des institutions qui s'en préoccupent plutôt qu'un programme scolaire?
L'histoire de l'éducation financière, elle est assez intéressante en fait parce que ses objectifs sont assez multiples. Ça vient en fait de son histoire qu'on a un petit peu racontée pendant cette émission, le fait que en fait elle procède un petit peu de cette éducation à l'épargne, d'une formation professionnelle, un petit peu de aussi d'entreprises associatives ou plus proches du travail social qui visaient à accompagner les personnes les plus pauvres dans la gestion de leur budget, donc qui est plutôt des formes d'action qui datent qu'on date des années 1990. L'éducation financière, du coup, aujourd'hui, c'est un petit peu une constellation d'acteurs qui se sont rassemblés dans cette politique. pour la raconter un petit peu rapidement son histoire, c'est quelque chose qui naît au début des années 2000, en tout cas dans les rapports de l'OCDE, avec l'idée que face à un déclin des protections sociales qui est présenté comme inéluctable, il faudrait que les individus apprennent à capitaliser et à bien placer leur argent. Donc c'est assez amusant parce que finalement on reboucle sur cette idée de d'épargner pour se protéger de la fin du 19e siècle.
Et effectivement, on boucle la boucle et on voit que les sphères privées sont donc éminemment politiques et donc publiques. Un grand merci à toutes les deux, Marianne Thévin et Marion Claire, d'avoir participé à cette émission.
Du travail.
Oui, n'importe quoi.
Et moi, je serai son assistante.
Elle me demande 25 cents pour m'aider.
Oh, je vois. Combien vous me demanderiez pour couper la haie, laver ma voiture et vider le grenier?
25 cents?
50 cents.
Oh, très bien. 50 cents.
Marché conclu.
Bon.
Comptez sur nous.
Arthur, tu ne crois pas qu'on devrait leur donner 75 cents pour un travail pareil?
Oh, non, 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 ma chérie. Si ces gamins se font posséder quelquefois, ça leur apprendra la vie. Des vautours comme moi sont des bienfaiteurs pour les enfants.
Un extrait de la série de la famille Adams diffusée sur ABC. Un grand merci à nos deux invités d'avoir participé à cette émission. Et je rappelle que cette émission est à réécouter sur le site d'Entendez-vous l'écho à la page de France Culture.